salamandre a fait son apparition juste derrière vous sur les écrans. Elle est très belle et grâce à elle, peut-être, si on se coupe un doigt, notre doigt pourra repousser, si je résume.
Voilà, c'est bien résumé. C'est effectivement un problème biologique très intéressant. Pourquoi, par exemple, notre foie, chez nous, être humain, est capable de se régénérer, même si on l'ampute de 70%? Même chose, notre peau, on perd à peu près 500 millions de cellules par jour, et malgré tout, la peau se régénère. Ce serait merveilleux de comprendre tous ces mécanismes, puisqu'alors on pourrait régénérer, par exemple, de la moelle épinière, ce qui est très important lorsque vous êtes paralysé, ou régénérer, par exemple, des neurones au niveau de notre cerveau. Et deux publications, ont été publiés dans le même journal Science au même moment, ce 9 avril, par deux équipes différentes. La première équipe est dirigée par Can Aztekin, qui est un Turc qui a fait des études de biologie en Turquie, puis qui a fait sa thèse de doctorat à Cambridge et qui a travaillé dans le laboratoire de régénération structurelle à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et actuellement, je viens d'apprendre, il est au Max Planck Institute à Tübingen. Et le deuxième article a été publié par l'équipe de Mekalia Storer, qui est une biologiste australienne, qui a fait sa thèse de doctorat en Espagne et qui est maintenant la leader de l'Institut des cellules souches de Cambridge. Et donc ces deux articles vont travailler sur le problème de la régénération, mais avec deux aspects différents. Le premier groupe s'est posé la question, mais il est clair que comme le patrimoine génétique est à peu près équivalent, que ce soit une souris ou un têtard, ça doit être sans doute épigénétique, c'est-à-dire ça doit être sans doute l'environnement qui conditionne le fait que le membre est capable de se régénérer ou il va simplement être cicatrisé et pas de régénération. Et donc, eux ont pensé à l'oxygène, puisque les amphibiens, comme la salamandre, les grenouilles, etc., vivent très souvent dans l'eau où il y a très très peu d'oxygène, comparé à l'air, évidemment. Et donc, ils ont travaillé sur des embryons de souris d'un côté et sur un têtard de l'autre côté, le têtard du xénope, qui est une petite grenouille connue, parce qu'elle est souvent utilisée dans les laboratoires de biologie. Et ils ont amputé des parties d'embryons de la souris, de même des parties de l'embryon du têtard. Et puis, ils ont mis ça en présence d'oxygène, pour voir effectivement si l'oxygène allait fabriquer la cicatrisation, amener la biologie à fabriquer, à cicatriser la plaie, et chez le têtard, eh bien, l'oxygène n'agissait pas, le membre repoussait. Et donc ils ont cherché qu'est-ce qui se passe vraiment avec cet oxygène. Et ils ont mis en évidence le rôle très important d'une protéine qui porte le doux nom de HIF1-alpha. C'est une protéine qui est libérée dès que vous êtes dans ce qu'on appelle l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. À ce moment-là, votre corps fabrique, et ça chez tous les êtres vivants, cette protéine pour améliorer le manque d'oxygène et faire fonctionner votre organisme. Et ils ont pu démontrer qu'en contrôlant cette protéine, ils sont capables, à ce moment-là, de faire repousser le membre chez l'embryon de la souris. C'est-à-dire que dès qu'on supprime l'action de cette protéine, eh bien le membre de la souris repousse. Et de même, chez le têtard, lorsqu'on met en présence de l'ablation, on met en haute quantité d'oxygène, si on contrôle cette protéine, eh bien le membre repousse quand même. Donc c'est bien le contrôle de cette protéine qui est dépendante de la quantité d'oxygène et qui favorise, je dirais, le fonctionnement de l'organisme quand vous avez une perte d'oxygène, que l'amputation va amener la régénération ou bien simplement la cicatrisation sans régénération.
Et nous, on l'a aussi cette protéine qui
absolument,
fait repousser les membres.
Absolument. Donc dès qu'on pourra contrôler ça, on doit évidemment passer au stade clinique chez l'homme après, mais voir ce qui se passe effectivement, quel est le rôle de cette protéine, pourquoi cette protéine-là favorise la régénération du membre. Et le deuxième groupe qui était aussi très intéressant, eux se sont intéressés à ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, celle qui maintient tous les tissus. Et ils ont travaillé eux aussi sur la souris, mais cette fois-ci sur des embryons de souris aussi. On sait que lorsqu'on coupe certaines phalanges à l'embryon de souris, certaines phalanges vont repousser et d'autres pas. Pourquoi, lorsqu'on coupe ce petit bout de doigt et l'autre bout de doigt, certains repoussent et d'autres pas? Et eux ont mis en évidence le rôle, je dirais, d'équilibre entre deux protéines très importantes. D'une part, le collagène, qui est une protéine qui se met en structure et qui, en fait, structure, qui maintient la structure de tous nos tissus. Et donc ce collagène, en fait, il durcit et il rigidifie énormément toutes les structures. Et une autre molécule importante, qui est l'acide hyaluronique, qui lui, en fait l'inverse, il rend les tissus beaucoup plus souples et surtout, il est extraordinairement hydraté. Et donc, comme il apporte beaucoup d'eau, eh bien, les cellules peuvent proliférer à l'intérieur de cet acide
hyaluronique.
Hyaluronique.
Ça, vous demandez à n'importe quelle femme, elle sait ce que c'est. Oui, c'est à peu près dans toutes les crèmes de beauté.
Exact. Et donc, elles ont fait ces expériences en montrant effectivement que si on retire l'acide hyaluronique, eh bien, en fait, le membre ne repousse pas, il y a cicatrisation et la régénération s'arrête. Si on rajoute cet acide, eh bien, paf, la régénération redémarre. Et donc là, cette fois-ci, la deuxième équipe montre un rôle important entre le collagène et cet acide qui permet, puisque c'est très hydraté, aux cellules de se repousser.
Eh bien, on va encore jouer au chimiste pendant un petit temps avant de savoir faire repousser nos membres. Mais enfin, l'espoir est permis. Merci beaucoup, Pasquale Nardi.